La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant une heure, nous allons découvrir les acteurs de la société qui font bouger les lignes. La France bouge. Ici, c'est simple. On trouve des solutions et elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Les bars sont fermés. Eh bien, trinquons à domicile et surtout grignotons lors de l'apéro. Les restos sont fermés. Eh bien, cuisinons. Dînons à la maison, des tendances qui profitent au groupe Aoste, son patron et notre invité jusqu'à 14h.
À la une en effet, si je vous dis rillettes, pâté saucisson, mais sans viande, eh bien oui, ça existe avec Kokriki. C'est une boucherie complètement végétale, on va la découvrir avec son cofondateur d'ici quelques minutes.
Allez, je poursuis les devinettes. Moi, si je vous dis Wismer, voilà bien une marque.
Ah, ça, on ne connaît pas du tout.
Ah oui, ça ne vous dit rien.
Et pourtant,
on connaît tous leurs produits. Ce sont eux qui fabriquent les fameuses trancheuses à jambon que l'on voit un peu partout. Et ce sera notre saga du jour dans La France bouge.
Chaque jour, un entrepreneur ou un entrepreneur vient nous présenter son projet dans La France bouge. Le pitch du jour, Loulaine, une couette en laine 100% française. Ce projet va-t-il vous convaincre? La réponse à 13h45.
Et puis demain au travail, comment bénéficier de conseils de start-up pour dépoussiérer ses savoirs? On a trouvé la solution pour vous et on vous dit tout vers 13h50.
Et c'est ça, La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, La France bouge, une France bouge de plus en plus écoutée. Un grand merci, hein, c'est ce que l'on veut vous dire avec Elisabeth et toute l'équipe.
On veut tout simplement. On est très content aujourd'hui, bah oui,
On est content, puis on est presque un petit peu fiers parce que vous êtes 73 000 de plus à nous écouter en un an. Alors on va tenter de continuer comme ça à vous faire découvrir toutes ces entreprises, toutes ces initiatives pour être dans une sorte de bulle d'oxygène ou quand même. On voit qu'il se passe des choses qui se passent bien dans notre pays. Allez, on continue tout de suite. Vous êtes d'accord, Elisabeth ?
Allez, on y va.
Avec notre témoin du jour.
Bonjour, Philippe Durier.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général du groupe Aoste, le spécialiste du jambon cuit, on peut dire ça comme ça.
Du jambon sec.
Et cuit aussi. Non, pas du tout. D'accord. Bon, alors vous avez aussi les marques Justin Bridou et Cochonou. Justin Bridou, vous étiez en petite forme, mais entre le confinement et le télétravail, vous connaissez un net rebond. Donc notre première question, comment ça va chez Aoste ?
Eh bien, tout d'abord, merci de me recevoir. Ce que je peux vous dire, ben, ça va. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que le travail que nous effectuons et la période du Covid que nous connaissons surtout nous a permis de tirer certains enseignements. Tout d'abord, on est dans une activité qui tourne en dépit de la crise et ça, c'est quand même une grande chance dans le contexte actuel. Ensuite, ça nous a permis effectivement de tirer certains enseignements par rapport à ce que vous disiez, parce que dans la charcuterie, pour faire simple, il y a des plats principaux, ce qu'on appelle le cœur de l'assiette, où vous avez de la purée, une saucisse, du jambon avec des coquillettes. Ça, c'est le cœur de gamme. Et autour de ça, il y a tout un tas de produits périphériques, plaisir, conviviaux, rassemblant les familles, ce dont vous avez parlé.
C'est ça qui fait que ça marche chez vous. Parce que, bah oui, on est confiné, mais bah, on ne veut pas complètement arrêter de vivre quand même. Donc, on se fait peut-être un petit apéro de plus à la maison.
Exact.
On se fait des plats conviviaux et ça, vous en profitez.
Et c'est vrai, c'est une réalité. Et on a profité également en interne pour bien identifier et vraiment réfléchir pour tout ce qu'on pouvait apporter comme solution par rapport aux gammes que nous avions. Et c'est vrai que vous avez raison, c'est exactement le bénéfice qu'on peut en tirer.
Donc, quand vous dites qu'il y a un bénéfice que vous en tirez, on est donc dans une activité qui tourne bien. Allez, quelques chiffres. Ça veut dire que, notamment sur les planches, sur tous ces produits plaisir dont vous parlez, il y a eu des hausses spectaculaires ces derniers mois.
Alors, on a eu des hausses et on a eu des bas aussi, faut pas oublier de le dire, parce que dans la gamme, on a également des produits snacking, où là, on a eu des baisses d'activité de 40%.
Oui, parce qu'on les retrouve plus dans les gares, j'imagine.
Exactement. Voilà. Plus dans les gares, dans les aéroports. Donc là, il n'y a plus d'activité. Donc ça a vraiment baissé drastiquement notre activité. Il a fallu s'adapter. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a des choses très positives parce que toutes ces planches apéro, ces assortiments pour faire des raclettes à la maison, des assortiments également à base de chorizo pour faire des belles paellas en famille et tout ça. Là, on a eu vraiment un gros regain d'activité où dans certaines fois, il a fallu s'adapter. Parfois tourner 7 jours sur 7 en 3-8.
À ce point-là. Il a fallu repenser finalement votre gamme d'une certaine manière.
Il a fallu repenser dans certains cas la façon dans nos organisations pour vraiment répondre à la demande et s'adapter aussi aux grosses fluctuations.
Est-ce que c'est temporaire d'après vous ou est-ce que ça présage une nouvelle façon de consommer ? Quand les restaurants vont revenir, vous pensez qu'on va tous y retourner rapidement ou au contraire, peut-être que ce plaisir qu'on a eu de faire à manger à la maison, de faire quelques apéros, ça va se poursuivre ?
Alors, je pense que ça va être panaché entre les deux. Effectivement, on a déjà connu ça à la fin du premier confinement. Il y a eu vraiment une réaction positive où les gens avaient vraiment envie de sortir. Mais après tout ce qui s'est passé, je crois qu'on peut facilement imaginer que ça a tissé des liens familiaux avec des proches et il va forcément en rester quelque chose. Donc, j'aurais presque envie de dire que c'est peut-être un peu prématuré de répondre dans les deux cas. Mais forcément, il y aura des enseignements à tirer de ce qui se passe.
Alors, ce qui est intéressant, quand on vous appelle le groupe Aos, je dois confesser que moi, le premier, je ne le savais pas. Je ne savais pas que vous étiez français. Pour moi, Aos, ça sentait bon l'Italie, ça sentait bon le jambon italien. Mais Aos, c'est une ville d'Isère, donc vous êtes dans le sud-est de la France, avec des marques bien françaises, Justin Bridoux, Cochenou. C'est ça l'historique du groupe Aos, hein ?
Alors, l'historique du groupe Aos, c'est assez simple en soi. Effectivement, Aos, c'est une petite commune de l'Isère. Il y a un village et notre usine de jambon est basée sur Aoste. Donc c'est d'où l'origine du groupe. La marque a été créée il y a 45 ans. Derrière ça, comme vous venez de le dire, on a un portefeuille de différentes marques. Donc on a vraiment Aoste qui est bien identifié sur le jambon sec tel qu'on le connaît. On a une autre marque, Justin Bridoux
évidemment.
Qui ne connaît pas le bâton de berger, mais on a également une gamme snacking. Donc là, c'est un peu la gamme tendance. Et on a une autre gamme aussi, Cochonou, très marquée terroir, qui sillonne les routes du Tour de France depuis 27 ans. On est dans la caravane du Tour et tout le monde connaît les produits pour un bon pique-nique Cochonou, des produits traditionnels et terroirs. Et puis la dernière marque dont je vous ai parlé tout à l'heure, la marque César Moroni, qui est la petite dernière arrivée dans notre groupe, vraiment sur des produits typiques à base de chorizo.
6 usines en France, dont une à Bayonne, parce que si on n'est pas à Bayonne, on ne peut pas faire du jambon de Bayonne.
Exactement. On est tenu de faire ça dans la région de Bayonne pour faire du jambon de Bayonne.
Alors, ça va bien, mais vous êtes aussi dépendant du cours du port. On a vu qu'il y a eu une embellie, mais une embellie qui s'est un peu tassée ces derniers mois. Comment réagissent les éleveurs avec qui vous travaillez ?
Alors, ce qui s'est passé, ce qu'il faut noter ces derniers temps, il y a une grande volatilité sur les matières premières. C'est vrai que c'est impératif de pouvoir bien s'adapter au niveau de l'équilibre économique des activités. En complément de ça, je reviendrai sur le coût du port aussi. Il ne faut pas oublier aussi de dire qu'on a des grosses tensions. Et là, ça ne touche pas que notre industrie, ça touche toute l'activité, sur tout ce qui est emballage, carton.
On va y revenir, mais c'est vrai qu'il y a une problématique pour le cours du port, notamment en France. Et ça pose des problèmes pour les éleveurs, hein, tout simplement.
Tout à fait. Donc là, il y a des évolutions sur les cours européens. Notre volonté, c'est de contractualiser de plus en plus pour amener une linéarité et une stabilité sur ces cours.
Où est-ce que vous fournissez ? C'est du port français au groupe Aoste ?
Alors, c'est une bonne question. On raisonne en territoire de marque. Ce que je peux vous dire, c'est que 100% des jambons qui rentrent dans l'usine d'Aoste aujourd'hui sont français, sont d'origine française. Et ensuite, la gamme Cochonou également, qui est très marquée terroir, est 100% française aussi aujourd'hui.
On n'a jamais mangé autant de charcuterie. On va continuer à en parler avec vous, Philippe Durier. Vous êtes le directeur général du groupe Aoste et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Elle bouge et elle mange. La France bouge aujourd'hui. On est avec Philippe Durier, qui est le directeur général du groupe Aoste.
Et le marché du véganisme explose. Hein. Il reste toutefois encore une niche dans laquelle des entrepreneurs ont trouvé une clientèle qui ne cesse de s'agrandir. Bonjour Bertrand Jouot.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes le cofondateur de Kokiriki. On a bien aimé le nom, on ne voit pas trop le lien avec la charcuterie.
Moi, j'ai évité de le donner pour ne pas l'accrocher.
Oui, on a bien compris que vous ne l'aviez pas donné. Mais vous allez nous expliquer pourquoi ce nom. Donc Kokiriki, c'est tout jeune, ça existe depuis 2018. C'est de la viande et la charcuterie végétale. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans vos produits, c'est que les tranches végétales imitent précisément le goût et la texture du produit animal. Alors, il y a quoi dans vos produits ?
Exactement, le goût et aussi le visuel. Alors nous, dans nos produits, on peut retrouver par exemple des protéines de tournesol ou des protéines de pois. On peut retrouver aussi des fibres de chicorée, des fibres de bambou. Et par exemple, pour donner cette couleur rosée, on va pouvoir utiliser des ingrédients issus de la carotte ou du betterave.
Pourquoi avoir voulu copier l'aspect et le goût, alors que c'est un produit quand même différent? C'était capital pour ne pas faire peur aux clients?
Oui, c'est ça, c'est pour que le consommateur s'y retrouve facilement, pour qu'il ne se sente pas marginalisé. Il veut consommer un steak ou une tranche à mettre dans ses préparations, donc il veut retrouver un produit qui ressemble à ce qu'il avait l'habitude de trouver.
Alors, à l'origine, vous êtes une entreprise familiale. Hein. Vous aviez déjà eu une expérience sur ce créneau parce que vous aviez créé en 2013 une entreprise dans le fromage, mais dans le fromage d'origine végétale aussi. Une entreprise que vous avez vendue l'année dernière. Et là, vous vous êtes mis donc sur ce créneau de la charcuterie végétale et vous venez d'emménager dans une nouvelle usine en Loire-Atlantique, à Pontchâteau précisément. Et vous êtes là-bas en direct en ce moment. Si vous avez voulu déménager, prendre une plus grande usine, c'est parce que ça marche très bien.
Exactement. En fait, comme vous l'avez dit, nous, on a une expérience dans le végétal depuis plus de 10 ans. D'abord sur ce créneau des alternatives au fromage. Et en fait, on s'est dit comment amener de l'innovation toujours dans le végétal. Et on s'est dit, on va proposer des alternatives de qualité nutritionnelle, mais aussi en goût, dans l'univers viande et charcuterie. On a commencé très rapidement avec les pays scandinaves. Donc aujourd'hui, on retrouve nos produits en Norvège, en Suède. Là, on va arriver en France à travers les plateformes en ligne, les plateformes e-shop. Et on est déjà en discussion avec certaines enseignes de GMS et on espère être présent. Voilà, de grande distribution, et on espère être présent dès la fin de l'année dans certaines enseignes.
Mais qui sont les clients que vous visez ? Est-ce que c'est les gens qui ont l'habitude de manger aussi cachère, halal, et qui veulent pouvoir profiter d'un plat de charcuterie, pardonnez-moi le mot, mais en même temps que tout le monde ?
Non, nous on vise tout le monde. Tout le monde doit avoir le droit de tester nos produits, de consommer nos produits. On a fait des bons produits donc nutritionnels, comme je le disais, Nutri-Score A, B, mais aussi des bons produits qu'on aime manger, qui sont bons en goût, donc ils sont accessibles à tous. Et on vise tout le monde. On ne dit pas tout le monde arrêtez de manger des protéines animales. On vous dit diversifier un peu plus.
Alors, ce qu'il y a de sympathique dans vos produits, c'est qu'on sait que la charcuterie classique, c'est pas très très bon pour la santé. Enfin, si on en abuse évidemment. Mais vous, tous vos Nutri-Score sont excellents.
Exactement. Et ça, c'est grâce à la formulation qui est principalement à base de protéines et de fibres. On s'interdit tout ce qui est conservateur, arôme artificiel. On a essayé, c'était notre
votre objectif de départ.
Exactement.
C'était là-dessus que vous travaillez à l'origine.
Voilà, complètement.
Et ça coûte combien pour le client ? Est-ce que ça coûte aussi cher ou le même prix qu'une tranche de jambon classique, on va dire ?
Ben justement, on s'est dit aussi, ça doit être accessible au plus grand nombre, donc nos packs de 200 grammes vont valoir entre 2,50 et 3 euros la barquette.
Philippe Durier, je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Aost. Est-ce que vous pourriez, vous aussi, aller comme ça sur ce marché du végétal ?
Eh bien, c'est une bonne question. Effectivement, c'est un mouvement, comme vient de nous l'expliquer M. Jouot, un mouvement qui existe aujourd'hui. Et nous sommes en train de travailler sur ce sujet. Il y a même quelques produits qui vont arriver également sur le marché.
Aost va aller sur le marché du végétal.
On va commencer certains produits, oui.
Alors, sur quoi ? Dites-nous, voilà, vous nous mettez, j'allais dire, l'eau à la bouche plus que jamais. Mais...
Le jambon à la bouche.
Elle vient de vous donner la réponse.
Donc du jambon, d'ici combien de temps ?
Non, mais on a en test avec certains partenaires de la distribution pour démarrer ce printemps, dans quelques semaines.
C'est parce que justement, c'est une niche, mais vous voyez cette envie de la part des consommateurs d'aller de plus en plus vers ces produits sans viande.
Vous avez raison, il y a une demande aujourd'hui. La charcuterie restera, heureusement d'ailleurs. Et pour se faire plaisir, il faut continuer à manger la charcuterie, il faut pouvoir le dire. Mais il y a une tendance aussi sur laquelle les produits à base de protéines végétales, il y a de la demande, donc il faut qu'on y réponde. Et c'est une tendance qu'il faut vraiment prendre en considération, effectivement.
Plus largement, la transparence de vos produits, c'est une très forte demande de la part des clients. Comment toujours plus les rassurer et comment peut-être adapter les produits aux envies ? Vous avez enlevé beaucoup de nitrite, par exemple, déjà de vos produits. Comment vous accélérez là-dessus ?
Alors l'actualité, je vous remercie pour la question, mais l'actualité de notre groupe, c'est qu'on a lancé un programme Agir. Alors Agir, ça veut dire acteur, gourmand, innovant et responsable, et dans lequel on prend tous les piliers pour répondre à ce genre de demandes. Alors pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a 6 gros piliers, il y en a 3 qui sont classiques à l'industrie, c'est-à-dire le zéro rejet, zéro carbone et les emballages recyclés. Ensuite, il y en a trois qui sont plus spécifiques, à savoir le bien-être animal, le zéro ingrédient superflu et le 100% territoire responsable. Et justement, cette notion de transparence au niveau des zéro ingrédients superflus, vous avez entièrement raison, nous travaillons, nous avons déjà éliminé beaucoup de nitrites sur certains de nos produits. Les jambons, par exemple, cochonou cette année, au mois de septembre, et nous allons continuer. Et ce devoir de transparence, on le doit vis-à-vis du consommateur, effectivement.
Bertrand Jouot, vous êtes le cofondateur de Coqui Riki, donc c'est de la viande, de la charcuterie végétale. Allez, donnez-nous envie, c'est quoi votre produit phare?
Notre produit phare, je vous invite vraiment, vraiment à goûter nos charcuteries.
Non, mais lequel?
Charcuteries. Le jambon, bien sûr. Et puis, nous allons aussi vous présenter des steaks, de très, très bons steaks qui vont arriver à la fin de l'année.
Oui, pourquoi Coqui Riki alors?
Coqui Riki, c'est pour rappeler le cocorico français. Mmh. Et on s'est aperçu que dans les autres pays, ils traduisaient le cocorico pas très loin de Coqui Riki.
D'accord. Merci en tout cas. Merci à vous Bertrand Jouot d'être venu, enfin de nous, d'avoir été en direct depuis votre usine. Vous proposez de la viande et de la charcuterie végétale de votre usine près de Nantes à Pont-Château.
Et Philippe Durier, le directeur général du groupe Aost, on vous garde avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
La Caisse d'épargne vous présente La France bouge. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Elle bouge, et une fois de plus, on voulait vous remercier avec Elisabeth et avec toute l'équipe, puisque grâce à vous, il y a un peu plus de monde à nous écouter chaque jour. 73 000, pour être précis, auditeurs en plus depuis le début de l'année.
Voilà, depuis un an, plus 73 000 auditeurs, et merci à vous. Et on va continuer sur notre lancée avec notre grand témoin du jour, Philippe Durier. Vous êtes le directeur général du groupe Aost. Alors, les 18-34 ans adorent la charcuterie, mais ils souhaitent une charcuterie plus naturel concernant vos produits industriels. Vous nous l'avez dit, hein, vous assurez une transparence. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous mettez quasiment toute votre stratégie en ce moment, sur la transparence, la provenance et l'origine des produits.
Tout à fait. Nous sommes tous obligés de répondre à cette demande aujourd'hui. Et c'est vraiment important d'y répondre d'une façon pertinente. Et on a la chance, nous, d'être dans des catégories de produits. Tout compte fait, on n'a pas trop d'ingrédients. Mmh. Un jambon, c'est juste un peu de viande et du sel naturellement.
Alors ça, c'est une chance. Et il y a aussi vos emballages. Vos emballages, certains utilisent du plastique, mais tout de même, ils se composent de 85% de papier.
Dans certains cas, oui. Là, ce qu'on fait au niveau des emballages, on a un programme, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, mais pour employer des emballages recyclables, progressivement, pour être à 100% d'emballages recyclables à horizon 2025. Et ensuite, lorsque les filières vont s'organiser aussi, parce qu'il faut faire ça en parallèle avec la collecte dans les filières pour récupérer les emballages, à horizon 2030, c'est d'être vraiment 100% recyclé.
Le problème, il y a un problème d'actualité en ce moment sur les emballages à cause d'une forte hausse des prix du plastique. Tous les industriels sont en train de le vivre en ce moment. Est-ce qu'il va falloir augmenter les prix des produits pour faire face à cette hausse qui est quand même notable?
À un moment ou à un autre, il faut bien adapter les cycles économiques. Vous prenez le prix du pétrole, je crois qu'il y a un an, le prix du pétrole devait être à $20 le baril. Aujourd'hui, on doit être à 62, 63. Il faut s'adapter. Sur les emballages, il y a forcément à un moment ou à un autre certains liens et il y aura forcément des impacts.
Des impacts, ça veut dire, oui, il va sûrement falloir qu'on arrive à faire parler.
Il va falloir discuter et je dois dire que là-dessus, au niveau des autorités et des différentes confédérations, il y a déjà des échanges pour se dire comment fait-on pour répondre d'une façon la plus objective face à cette situation. Oui.
Et du coup, d'ici à combien de temps, d'après vous, on va devoir payer un petit peu plus cher?
Ça va pas forcément se convertir de cette façon-là. Je crois que on doit répondre à la demande du consommateur. On est tous conscients, tous les acteurs sont conscients de la situation économique dans laquelle on est. Après, c'est de trouver le juste équilibre pour répondre à cette demande.
On est dans une époque où la charcuterie n'a pas forcément la cote auprès de tout le monde. Comment on peut donner envie aux Français de continuer sur la longue période de renouer avec cette consommation?
Alors ça, c'est une bonne question, mais je ne partage pas forcément le même avis que vous, parce qu'au travers de la crise qu'on vient de connaître, on se rend compte que tout de suite, on revient sur les fondamentaux et la consommation a été présente. Donc je crois qu'à partir du moment où on a un bon produit qui a du goût, en plus quand vous répondez vraiment à des instants sympathiques de consommation, de convivialité, On a vraiment tous les atouts pour bien réussir.
Du coup, est-ce que cette crise vous oblige à innover et à repenser de nouveaux produits ? C'est-à-dire qu'il y aura forcément un avant et un après cette crise. Là, cette crise vous permet de renouer le lien avec vos consommateurs, certainement avec de nouveaux aussi consommateurs. Vous avez un nouveau public. Est-ce que ça va vous stimuler, vous challenger, comme on dit, pour repenser des nouveaux produits ?
Alors, pour moi, l'innovation, c'est le produit, mais pour avoir les produits, il faut avoir les bonnes équipes. Et ce qu'on a commencé à faire il y a déjà quelques mois, on a créé un labino au sein d'Aost, où là, on a fait ça en interne. On a fait ça en interne et on a recensé différentes personnes qui étaient motivées et on a créé une cellule INO où vous avez autant des personnes qui ont candidaté au niveau des RH, au niveau de la supply chain. On a fait une espèce d'agitateur d'idées et qui nous ont sorti des produits en innovant et qui ont pris le projet de A à Z.
Alors, par exemple ?
Il y a des produits, par exemple, dans le traiteur qui sont sortis, des mini préfous qui sortent un peu de notre gamme par rapport au cœur de métier comme la charcuterie snacking, mais qui sont toujours dans la convivialité de l'apéritif.
Finalement, vous voulez devenir un peu le traiteur de l'apéritif ? Si on devait définir votre avenir.
Simplement, je veux faire plaisir lors de l'apéritif et j'ai envie de dire que tout ce qui gravite bien dans les moments de convivialité avec nos marques, il faut qu'on travaille dessus.
Est-ce que vous trouvez facilement du personnel aujourd'hui pour venir dans vos usines, puisque de nombreux invités ici nous disent on a du mal à recruter. Est-ce que c'est vrai pour les charcutiers, pour les bouchers, pour tous ceux dont vous avez besoin dans vos usines ?
Alors, il y a deux choses à dire. Tout d'abord, on a une activité saisonnière très importante. L'été, l'hiver, après il y a des moments, donc on doit toujours être vigilant pour pouvoir répondre d'une façon très rapide à certaines demandes. La deuxième chose que je dois vous dire, c'est qu'au niveau du groupe Aost, il y a une culture de la promotion interne qui est très forte et on croit beaucoup dans ce process-là. Troisième sujet, on insiste énormément sur les formations. Il y a eu plus de 1700 heures de formation l'année dernière, même en période de crise, de crise pendant le Covid, et on a continué à assurer ce planning. Donc ça, déjà, le fait d'avoir cette promotion interne, ça vous assure le développement.
Donc, une fois qu'on a mis le pied dans le sein du groupe Aost, on a des possibilités d'évolution. On peut être formé chez vous et évoluer au fur et à mesure.
Bah, je peux vous prendre un exemple tout à fait concret. Aujourd'hui, vous avez dans le comité de direction une personne qui a Stéphanie, qui a la direction de la supply chain. Elle avait la direction d'une petite usine. Elle en a pris une autre usine un peu plus conséquente. Et aujourd'hui, elle a la direction de la supply chain. Aujourd'hui, la directrice marketing était auparavant la directrice administrative et financière. On a la chance d'être dans un groupe qui nous donne la possibilité de nous former.
Et quand on n'arrive pas directrice, on peut quand même gravir les échelons ?
Il y a d'autres personnes également, bien sûr. Il y a des personnes qui sont rentrées comme stagiaires et qui aujourd'hui ont des rôles très importants dans le service qualité, par exemple.
Alors, chaque jour dans La France Bouge, Philippe Durier, on se pose un moment et on découvre l'histoire d'une marque, d'un produit ou d'un endroit français qui ont traversé des générations et donc qui ont traversé des crises. On vous emmène aujourd'hui dans les Vosges, dans une entreprise qui est née en 1918. Et à l'origine, cette entreprise réparait des machines à coudre.
Oui, et aujourd'hui, ce sont des trancheuses à jambon Wismer. C'est la saga du jour racontée aujourd'hui par, notre boucher en chef, Quentin Paillet.
Europe 1, la France bouge. La saga.
Vous n'y avez peut-être jamais fait attention, mais votre boucher ou charcutier a très certainement une trancheuse de la marque Wismer. Tout commence en 1918 avec Henri Wismer, un Suisse spécialisé dans la mécanique des montres qui émigre en France. Il s'installe dans les Vosges, à une dizaine de kilomètres d'Épinal. Mais avant de produire des trancheuses, Wismer se spécialise à l'époque dans les machines à coudre. Jean-Jacques Wismer, PDG et quatrième génération à la tête de Wismer.
Parce qu'il y avait beaucoup de textiles dans les Vosges, et qui disait donc textile, disait usine dans lesquelles il y avait des machines à coudre. Donc là, il a commencé à assembler donc des machines et à vendre des machines.
Ce n'est qu'un peu plus tard, au début des années 1930, que le fils du fondateur se lance dans la fabrication et la commercialisation de trancheuses à viande et à charcuterie.
Donc le corps de la machine, la fonderie, est faite en Italie. Ensuite, les machines arrivent chez nous, où elles sont assemblées, montées, peintes et personnalisées. C'est-à-dire que chaque machine est une pièce unique. Le client peut demander la couleur qu'il souhaite. On fait des finitions avec des poignées en bois d'olivier, par exemple. On fait des finitions en inox. Donc on fait vraiment des machines unique aux clients donc, qui le souhaitent. On les personnalise en marquant le nom de l'établissement, on fait ce que le client souhaite.
Les principaux acheteurs des trancheuses Wismer sont les professionnels comme les bouchers charcutiers, mais également les restaurateurs comme les pizzerias, les bars à vin et les épiceries fines. Des particuliers aussi se font plaisir et s'offrent des trancheuses, une tendance accentuée depuis la crise du Covid. Et pour certains, c'est même une passion.
Il y a des personnes qui sont passionnées par le jambon. Un bon jambon, ça peut coûter 200 euros le kilo. Et donc, si ce jambon-là, il n'est pas bien coupé, il sera beaucoup moins bon que s'il est coupé avec notre machine. Nous, on fait des tranches qui peuvent peser 2 grammes. Donc, quand vous mettez la tranche de ce très bon jambon en bouche, il va fondre entre la langue et le palais, il va exalter toutes ses saveurs, toutes ses odeurs, et donc c'est une pure merveille.
Certaines vieilles machines manuelles peuvent coûter jusqu'à 30 000 euros, et puisque ce n'est que de la mécanique, tout est réparable, et de nombreuses machines sont aujourd'hui plus que centenaires. Chaque année, ce sont en moyenne 600 trancheuses manuelles et 2000 trancheuses électriques qui se vendent, majoritairement en France.
Et voilà, c'était la saga du jour racontée aujourd'hui par Quentin Paillet de l'équipe de la France Bouge.
Et Philippe Durier, vous êtes notre grand témoin du jour, vous êtes le directeur général du groupe Aost. Vous restez avec nous parce que place maintenant un temps fort de la France Bouge, le pitch du jour. On va vous demander de porter votre casquette de coach pour écouter et conseiller un entrepreneur qui se lance, si vous le voulez bien.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Ah, on en découvre des pépites hein, dans la France Bouge. C'est le cas chaque jour à ce moment des trophées européens à la France Bouge. Remise des prix le 9 juin prochain. On va vous détailler tout cela d'ici quelques temps. On vous racontera un peu ce qui va se passer. Mais d'ici là, le pitch du jour devant l'œil attentif de notre témoin du jour. Philippe Durier, qui est le directeur général du groupe Aost. Et puis notre indispensable Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie qui est là, elle aussi, prête pour apporter tous ses conseils.
Et un projet qui est né en novembre dernier. Bonjour Auriel Morvan.
Bonjour.
Vous avez 46 ans, vous êtes toulousaine et fondatrice de Loulaine, L-O-U-L-E-2-N. On le prononce Loulaine comme la laine. Hein. C'est une marque de couettes en laine française. Et tout a démarré lors d'un voyage en Australie. Vous allez tout nous raconter, nous décrire vos couettes. C'est parti pour le pitch. Vous avez une minute. Allez, on respire, on y va.
Alors Loulaine, c'est une marque de couettes en laine française. Moi, j'ai vécu 5 ans en Australie. Et c'est là-bas que j'ai rencontré ma couette en laine, pour laquelle j'ai eu un vrai coup de foudre. En France, j'ai fait plusieurs constats. La laine est en abondance, malheureusement, plus de 80% part en Asie. Les couettes en laine sont quasiment inexistantes, et en effet, plus de 75% des Français dorment sous une couche de pétrole. Alors j'ai décidé de créer la couette Sénan, de la laine, du coton bio. Elle est bordée de couleurs pour l'esthétique, et de l'étiquette à la couette, elle est faite en France. Se glisser sous une couette Sénan, c'est un vrai délice. D'une surprenante légèreté, elle apporte des sensations de confort et de chaleur immédiate. Elle est isolante, thermorégulatrice, et elle va réconcilier tous les couples qui ont des besoins de chaleur complètement différents. Et son innovation réside dans son devenir recyclé. Et consigné.
Elle donne envie,
voilà.
Cette couette.
Ben, elle donne totalement envie, mais alors comme tout le monde, vous avez oublié de nous dire combien ça coûte, c'est à chaque fois pareil, donc c'est mon job.
C'est un budget.
Alors, j'imagine que ça dépend de la taille, c'est entre 205 et 390 euros, m'a-t-on dit, c'est ça ?
Exactement.
Donc voilà, c'est effectivement un petit budget, mais bon, a priori, on la garde toute sa vie, cette couette.
Ah bah oui, forcément. Merci Auriel, en tout cas, pour votre pitch. Je vous présente Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth.
Mais
bonjour,
qu'est-ce qui vous fait rire
Nathalie,
déjà
Nathalie, il y a des fous. Je ne sais pas, c'est les pitchs peut-être qui vous font rire.
Non, cas, c'est la façon dont vous m'avez présenté, Elisabeth. C'est le genre le messie, quoi. Ça
mais
fait
oui,
un peu bizarre.
Mais c'est
fait.
Ça. Mais vous êtes bien résumé. Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la CCI, à la Chambre de commerce et d'industrie, qui a analysé votre projet Auriel. Quelles sont les forces et les faiblesses de Loulaine ?
Alors déjà, effectivement, on a quand même, je savais pas, on a la moitié des Français qui dorment avec une couette et l'autre avec une couverture. Et donc votre couette, à vous, eh ben, elle réunit tout le monde, puisque voilà, on a tout le monde sous la même couette. Les 60 nuits d'essai, c'est vraiment important parce que effectivement le budget est important, donc on se lance un peu dans l'inconnu, donc pouvoir dire bah, finalement ça nous convient pas au bout de 60 nuits, c'est vraiment bien. Et puis votre site est clair, bien expliqué, il y a une jolie présentation du produit, ça donne vraiment envie. Les points améliorés, alors finalement, quand on s'y penche, le choix d'une couette, c'est un peu compliqué. Mmh. Il y en a pour tous les prix et chaque garniture, donc plume, laine, synthétique, etc., a ses avantages et ses inconvénients. Du coup, il faut aider le client à vous choisir. Peut-être vous pourriez faire un comparateur qui se baserait sur nos usages de sommeil. J'aime avoir chaud quand je me couche, plus frais pendant la nuit, je transpire souvent, je dors à deux, etc. Pour que chaque usage ait sa garniture la plus adaptée finalement. Comme ça, on vous choisira en fonction de nos besoins à nous et pas à partir d'arguments commerciaux.
Qu'est-ce que vous répondez à Nathalie Carré ?
Oui, c'est très pertinent. En fait, dans une partie du site, il y a une partie où j'ai mis des questions-réponses. Et effectivement, ça répond à une partie de ces points-là.
En revanche, ce qui est capital, c'est que c'est la couette toute saison. Parce que vu qu'elle est thermorégulée d'une certaine manière, c'est aussi bien la couette pour l'hiver quand il fait froid qu'en début de saison quand il fait... un peu meilleur, c'est ça l'idée, je trouve,
oui,
aussi.
Mais ça n'existe pas sur le marché, des couettes thermorégulées ?
Il y en a très peu.
D'accord.
Okay. Ça existe, mais il y en a vraiment très très peu.
Vous avez besoin de quoi aujourd'hui, Uriel ? Comment pouvons-nous vous aider ?
J'ai besoin de beaucoup de visibilité, parce que je suis toute petite, ça fait 6 mois seulement d'existence, et de financement pour m'aider à embaucher, pour m'aider à développer la marque auprès de tous les Français.
Vous avez besoin de combien de sous ? C'est le moment de le dire. Ici, on peut le dire.
Pas de tabou sur l'argent.
Entre 300 et 500 000 euros, ça serait, voilà, pour faire un gros développement.
Philippe Durier, vous êtes le directeur général du groupe Aost. Quelle est votre vision d'entrepreneur de ce projet ?
Je vais dire que je suis bluffé, parce qu'arriver à faire ça en 6 mois, même s'il y a un carré...
C'est fort, ça. Oui, vous avez raison.
En 6 mois, ouais. On a démarré en 6 mois, vous démarrez en période de crise. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Mme Carré a dit, mais avoir pensé également avoir fait le site internet et tous les attributs que vous donnez déjà sur la couette, je suis vraiment impressionné. Après, c'est vrai qu'il y a toujours la période de décollage. Je pense que vous l'avez réussi. Maintenant, il faut arriver à trouver la bonne vitesse de croisière.
Mmh. Et ouais,
il faut arriver à penser à tout. Et c'est là où il faut être vigilant. Toujours bien se faire encadrer à certains moments pour bien penser à tous les éléments.
Puis les retours sont bons. Vous avez fait une campagne sur le site de financement participatif Ulule. Ça a bien fonctionné, je crois. Ça a permis de se lancer. Vous en avez déjà vendu 200, c'est ça environ, des couettes ?
Exactement.
Bon,
et
pas.
J'ai surtout la surprise de voir des gens qui en rachètent. Et ça, c'est la belle surprise de quelques mois plus tard. C'est super.
Les personnes que vous avez envie de recruter, disons que le tour de table se fait dans un monde idéal, mais ça va se faire, ça, nous en sommes certains. Quels sont les profils que vous souhaitez recruter ? C'est quoi ?
C'est plus du développement commercial et autour de la communication. C'est autour des réseaux sociaux et puis développement de produits aussi.
Et vous rapprochez des magasins type, je dis au hasard, la Maison de la Literie qui fabrique des matelas. Est-ce que ça pourrait être une solution de vous adosser à un grand groupe ?
Alors, pas forcément, parce que je me suis rendu compte, en fait, justement en faisant des recherches, qu'ils ne savaient pas très très bien vendre ce produit. Donc j'aimerais bien me démarquer un peu, plutôt toucher des concept stores ou des magasins d'ameublement.
Eh bien super, et on vous souhaite bonne chance pour la suite.
Merci à vous Uriel Morvezen pour la couette Loulaine, une marque de couette en laine française.
Et on vous dit à demain Nathalie Carré, une fois de plus un grand merci pour vos précieux conseils. Si vous aussi vous avez envie comme ça de venir présenter votre projet, eh bien une seule adresse mail, cette adresse c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Philippe Durier, vous êtes le directeur général du groupe Aost, vous êtes notre témoin du jour, suite et fin de votre émission, vous allez rester encore avec nous quelques minutes.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Elle bouge, elle mange, elle innove, elle a plein de projets cette France bouge et on le voit une fois de plus depuis le début de cette émission, notamment avec notre grand témoin du jour, Philippe Durier, qui est le directeur général du groupe Aost, mais Aost qui détient également les marques Justin Bridou ou Cochenou notamment.
Et chaque jour nous mettons en avant les entreprises qui placent le bien-être, l'humain, l'innovation au cœur de leurs préoccupations. Bonjour Julien Tabary.
Bonjour à tous et merci de m'accueillir.
Merci à vous. Vous êtes le directeur commercial de Catelin. C'est une entreprise familiale de 80 personnes qui est située dans le nord de la France. Une entreprise qui existe quand même depuis 1904. Vous travaillez sur des éléments d'assemblage de haute sécurité dans les domaines de pointe, de l'énergie, du marine, du nucléaire. Et demain au travail, parce que vous faites appel à ce que l'on appelle des makers. C'est-à-dire que comme vous êtes une entreprise ancienne, vous avez voulu en quelque sorte dépoussiérer vos savoirs, apprendre des techniques que vous ne connaissez pas, vous n'en avez pas eu honte, pas de complexe, vous avez fait appel à ces makers. Mais c'est quoi des makers ?
Alors des makers, c'est des gens qui ont la capacité à nous remettre en cause, surtout sur la fonction commerciale, en tout cas pour la mission qui était la nôtre, et qui nous ont permis grosso modo de passer de méthodes commerciales traditionnelles à des méthodes de nouvelle génération, des méthodes vraiment liées à tout ce qui est start-up et qui nous ont permis de mettre en avant notre innovation qui s'appelle le Seabolt.
Alors concrètement, du coup, dites-nous, c'est quoi cette innovation ?
Alors cette innovation, c'est un élément d'assemblage qui est connecté, qui va permettre de gagner en sécurité pour des sites sensibles comme les sites nucléaires ou les plateformes pétrolières en mer, histoire de vraiment sécuriser les hommes, les installations et éviter des marées noires, des accidents nucléaires ou des choses comme ça.
Mais quand au sein de l'entreprise, vos collaborateurs ont vu arriver ces start-upers, comme on dit, hein, ces makers, pour dépoussiérer vos savoirs, pour vous apprendre des nouvelles techniques de vente commerciale, comment ont-ils réagi ?
Ça remet tout en cause, hein, puisqu'effectivement, nous, on utilisait des méthodes commerciales assez traditionnelles, même si on fait des formations, etc. Mais là, on est passé de la préhistoire au 21e siècle en termes de méthodes. Et c'est vrai qu'il faut... on a un superbe accompagnement, pour le coup, là, avec X-Makers. C'est des gens qui nous ont épaulés, qui nous ont conseillés, qui nous ont écoutés et qui se sont vraiment adaptés à nous.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces experts venaient d'autres startups. Je crois qu'il y en a un, il y a un expert qui venait de Singapour, qui avait créé trois autres startups. Vous les avez trouvés où ?
On les a pas trouvés, c'est-à-dire que c'est eux qui sont venus à nous grâce à X-Makers. Et oui, effectivement, il y a des gens qui venaient de Singapour, il y a des gens qui venaient d'autres horizons. Et c'est justement ce croisement des horizons qui permet de nous rafraîchir complètement la vue, entre guillemets, de ce qu'on peut faire. Quand on est une vieille dame de quatrième génération dont le président fête son anniversaire aujourd'hui, Christophe Catelin, donc on lui souhaite bon anniversaire.
Bon anniversaire, monsieur Catelin.
C'est vrai que ça demande de se remettre en question de façon permanente. C'est une philosophie qu'on a, mais là, elle est vraiment bousculée dans la mesure où c'est des techniques que personne ne connaît. Il n'y a qu'une pointe de personnes qui sont à la pointe des technologies, d'Internet, etc., qui connaissent tout ça.
Donc, c'est intéressant d'avoir déjà le courage comme ça, d'aller chercher une solution extérieure, on le rappelle, qui s'appelle Makers. La start-up vient donc creuser le sujet, elle essaie de comprendre les leviers de la problématique pour apporter une solution à vos clients. La question, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs se posent là, en voiture ou à la maison, c'est bien gentil, mais est-ce qu'ils vendent plus maintenant ?
Oui, ouais. Clairement, ça ramène des leads qualifiés. Et clairement, en termes d'action commerciale, on va 10 fois plus vite que ce qu'on pouvait faire avec les méthodes traditionnelles.
Alors, je me tourne vers vous, Philippe Durier. Vous êtes le directeur général du groupe Aoste. Aoste, le groupe existe depuis 1976. On l'a entendu avec Julien Tabary. Eux, ils ont voulu se remettre en cause en faisant appel à des start-upers pour dépoussiérer un peu tout ce qui existait chez eux. Est-ce que chez vous, c'est quelque chose que vous pourriez faire ? Parce que vous existez depuis 1906, je crois. De 1976.
Donc, depuis 1976, oui, il a bien fallu s'adapter régulièrement au niveau des demandes. Là, avec par exemple la crise du Covid que nous avons connue, je vous ai dit que la consommation avait évolué. Et à titre d'exemple, on a dû vraiment se remettre en cause aussi dans nos méthodes de distribution. Il y a des réseaux comme les drives, le click and collect qui ont explosé, qui n'ont rien à voir par rapport à nos réseaux conventionnels. Donc effectivement, il a fallu...
Qu'est-ce que ça change par exemple pour vous qu'un jambon à os soit vendu dans un drive plutôt que le supermarché du coin ?
L'action commerciale n'est pas la même parce qu'on a des forces commerciales sur le terrain qui ont l'habitude d'aller dans des points de vente bien spécifiques.
Bêtement, qui se battent pour que votre soit bien hauteur de vue et tout ça. Et là, il n'y a plus besoin de faire du tout ça. Donc,
On se réorganise différemment dans les mises en avant des produits et sur le terrain aussi.
Alors ça demande beaucoup d'humilité quand on est un patron ou une équipe commerciale de dire, tiens, on peut peut-être se réinventer et on peut sûrement faire mieux. C'est quand même quelque chose qui, quand vous l'entendez là, vous vous dites, tiens, ça pourrait m'intéresser de me challenger ou non, parce que vous vous dites, on s'est adapté, on sait bien faire et on le vit chaque jour.
Non, le challenge, ça fait partie de notre ADN. Je pense que si on veut toujours continuer à avancer et à se développer, le challenge est fondamental. Donc c'est toujours intéressant, effectivement, d'écouter les différentes expériences qui peuvent exister, oui.
Julien Tabary, vous êtes le directeur général de Catelin. Donc, chez vous, vous avez réussi à vous remettre en cause. Si c'était à refaire, vous allez le refaire là dans les prochains mois, dans les prochaines années ?
Oui, on va continuer notre aventure dans ce sens parce que ça nous a vraiment fait découvrir certaines choses. Et moi, pour résumer tout ça, je citerai Albert Einstein qui disait que la logique vous conduira d'un point A à un point B et que l'imagination et l'audace vous conduiront là où vous le désirez.
Eh ben, disons, on n'a plus besoin de faire de conclusion avec des phrases comme ça. Bravo, en tout cas, à vous.
Merci à vous, Julien Tabary. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Catelin. C'est la fin de votre émission. Merci à notre témoin du jour, Philippe Durier. Merci d'être venu dans La France Bouge nous parler de votre joli groupe Aoste. Vous en êtes le directeur général. Emmanuel,
vous préparez votre valise ?
Mais c'est ça, parce qu'on se retrouve demain. Nous serons en direct de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulon.
Oui, on prend le train. On vous rejoint demain. Mais pour faire quoi ? Parce que c'est quand même ça le plus important. On va s'intéresser aux techniques de demain et à l'économie de demain, notamment autour de l'économie de la mer. Comment on peut être plus sûr de l'économie responsable, de l'économie éthique. Et on sera notamment avec le patron de Corsica Ferries, puisqu'ils sont en train de se réinventer pour faire en sorte qu'il y ait moins de pétrole et qu'on pollue moins, notamment dans les ports. Mais vous allez voir, on va vous faire découvrir depuis la Chambre de commerce et d'industrie plein de solutions en la matière. Donc demain, rendez-vous 13h depuis Toulon.
À demain, restez sur Europe 1 dans un instant. Le flash suivi de Christophe Ondelat.
C'était La France Bouge avec la Caisse d'Épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.